Les études rattachées à notre thème général que je rappelle, l'amour de Dieu, puissance de vie et de croissance. Il n'y a pas de vie sans l'amour. Ce sont deux puissances immatérielles qui sont unies et inséparables. Là où est la vie, là doit être l'amour. Là où n'est pas l'amour, là n'est pas la vie. Le christianisme n'a pas apporté à notre monde une morale. La morale chrétienne est quelque chose qui a été conçu à partir de l'Évangile. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter la vie par l'amour et l'amour pour la vie. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, un chapitre assez court, mais que nous connaissons bien. Et les choses que nous connaissons bien, il faut persister dans leur étude et leur méditation. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Dans ce chapitre, nous pouvons découvrir trois parties. La première, qui comprend les trois premiers versets, nous montre la supériorité incontestable de l'amour. Dans la seconde partie, versets 4 à 7, nous trouvons les œuvres et les qualités de l'amour. Et enfin, dans la troisième partie du verset 8 au verset 13, nous recueillons l'assurance que l'amour est impérissable. Alors, nous allons voir tout d'abord les versets 1 à 3, c'est-à-dire tout ce qui nous est dit ici pour montrer d'une façon frappante la supériorité de l'amour sur toute autre chose, et même les dons spirituels qui sont des moyens, ou pour employer le terme qui figure dans le contexte, dans le chapitre 14, des voies de Dieu, des moyens, des voies de Dieu. L'apôtre Paul a été conduit à s'exprimer comme il le fait ici, parce que les Corinthiens, qui possédaient beaucoup de dons spirituels, qui en étaient heureux, peut-être même fiers, croyaient que tout était là, que la vie chrétienne s'exprimait par le moyen de ces dons et que cela était suffisant, c'était le tout. Ils étaient dans une erreur profonde. Et c'est pourquoi, d'une façon saisissante, l'apôtre Paul a été conduit à leur opposer ce que nous avons lu et ce que nous allons maintenant méditer dans les trois premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si quelqu'un, l'apôtre le suppose, avait le don des langues poussé à l'extrême, un don extraordinaire qui peut-être ne se rencontre pas même, tout en étant rempli de lui-même et absolument dénué d'amour, alors celui-là serait incapable d'aimer. Et que ferait-il avec ce don des langues extraordinaire? Il ferait du bruit, comme celui d'un instrument mort et creux. Il serait lui-même cela, mort et creux. Il n'y aurait rien, rien, du bruit qui ne conduit à rien. Le don s'exercerait donc sans aucune efficacité, au seul profit, bien sûr, de l'orgueil. Et on peut se demander si la supposition de l'apôtre Paul a tout de même quelque vraisemblance. Eh bien, oui, oui, cela est possible, tout à fait possible. Et l'on a pu voir des situations qui se rapprochaient beaucoup de cette supposition. C'est possible, quelqu'un possédant les dons, et nous savons que le Seigneur ne se repent pas des dons qu'il accorde. Donc, possédant des dons, ici il s'agit du don des langues, et quelque chose de magnifique, et puis alors le cœur de celui qui a reçu ce grand privilège, eh bien son cœur s'obscurcit, son cœur se remplit d'orgueil par exemple, il se regarde, il se replie sur lui-même, il ne voit plus les autres, il ne comprend plus que le don qu'il a reçu n'était pas pour lui, mais pour transmettre aux autres un message de Dieu. Il ne sait plus cela, et alors il se trouve dans cette situation dont nous parle le verset premier. Voyons le second verset maintenant. « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Alors ici, il s'agit de quelqu'un qui possède le don de prophétie, avec en plus le don de docteur. Et ces dons sont également tous deux portés très haut, et ils ont à leur service une foi puissante. Si cela était, eh bien, celui-là qui posséderait ses dons et les exercerait, mais n'aurait pas en lui l'amour, ne porterait aucun fruit. Aucun fruit. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Aucune œuvre de vie. Et l'Évangile, je l'ai rappelé tout à l'heure, n'a d'autre destination que cela, apporter la vie, nous mettre sur le chemin de la vie. Aucune œuvre de vie ne serait faite par ces dons supposés brillants, puisque celui qui les exercerait serait absolument vide d'amour. Vide d'amour, par conséquent, incapable d'apporter, de communiquer cette puissance de la vie. On ne peut communiquer un message de vie, en effet, si l'on n'éprouve aucun amour pour ceux à qui l'on s'adresse. Sans l'amour, aucun savoir ne peut s'appeler vérité. On peut peut-être exprimer dans un langage approprié les énonciations véritables, les énonciations puisées à bonne source dans la Bible, mais en réalité, si on ne le fait pas sous l'impulsion d'un amour, et nous pouvons préciser d'un premier amour, d'un amour réel, eh bien, on ne peut absolument rien communiquer. On ne communique rien. Rien. On ne peut communiquer aucun message de vie si l'on n'éprouve pas l'amour. Sans l'amour, donc, aucun savoir ne peut s'appeler vérité. La puissance de la vie se trouve véhiculée par la parole de Dieu, transmise par l'esprit et par l'amour. Et par l'amour. La parole de vie, n'est-ce pas, la parole de vie, elle est appelée ainsi, eh bien, le véhicule de la vie. Il y a, non pas dans les phrases, les mots, les lettres qui sont ici dans le livre, il n'y a pas, si vous voulez, attaché littéralement à ces mots, à ces phrases, la puissance de la vie impérissable, mais dès que nous consultons l'Écriture, dès que nous la consultons avec foi, dès que, par conséquent, nous appelons à notre secours le Saint-Esprit, immédiatement, ce qui est écrit devient parole de vie et transmet la vie. La puissance de vie est attachée, donc, à la parole de vie. Troisième supposition, verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Alors, voici dans cette troisième supposition des actes de grande valeur morale, des actes de charité, supposés portés au plus haut degré de dévouement. De tels actes peuvent-ils, on se le demande, est accompli en dehors de l'amour. La supposition de Paul au début nous étonne un petit peu, mais comment se fait-il que le déploiement d'un tel service, de charité, d'une charité aussi importante, comment ce déploiement peut-il se faire sans le secours de l'amour? Comment celui qui va en effet distribuer ses biens aux pauvres et livrer son corps pour être brûlé, comment peut-on supposer que celui-là n'aime pas à le cœur vide d'amour? Eh bien, pourtant, ici, la supposition en est faite. Et elle n'est pas non plus hors de toute possibilité. Elle n'est pas homme. Enfin, ce n'est pas là le point particulier qui nous occupe. Sans amour, ce serait donc rechercher quoi ? Rechercher un mérite. Peut se trouver, il s'est trouvé des hommes qui n'avaient d'autre fin que de rechercher un mérite pour eux-mêmes, et de ne pas hésiter à s'engager dans des actions charitables avec de grands moyens. Les grandes actions charitables du monde sont de cet ordre. Il est certain que ces grandes actions charitables peuvent apporter un soulagement à des souffrances, à des misères, et que, en cela, ils ont une certaine utilité. Il y a des gens qui, en effet, se sont montrés très charitables et ont apporté à la société vraiment des secours, des soulagements absolument positifs. Ça, il ne faut pas le nier. Mais cela ne leur a rien procuré à eux. Cela ne me sert de rien. C'est-à-dire que cela ne les a pas sauvés, bien entendu, nous le savons, mais en plus, même s'ils pensaient être chrétiens, cela n'a pas pu leur procurer l'approbation de Dieu et tout ce que peuvent entraîner les œuvres de Dieu réalisées véritablement sous l'impulsion de l'amour. Ainsi, seul l'amour peut rendre efficaces les œuvres de la foi. Il faut la foi pour accomplir les œuvres de Dieu, les véritables œuvres. D'ailleurs, les véritables œuvres sont celles que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. La conception ne vient pas de l'homme. Rappelons-nous, Éphésiens 2, 10, je le cite souvent, c'est excessivement important, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Ainsi, la conception de ces œuvres, peut-être même au-delà de la conception, le tracé, et c'est ce que semble indiquer le grec. Si on l'examine d'un peu près, le grec nous dirait à peu près ceci, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous marchions dedans, n'est-ce pas ? Afin que nous allions de l'une à l'autre. Et c'est cela que l'on peut appeler œuvre chrétienne, bonnes œuvres. Il faut donc la foi au départ. Les œuvres, les bonnes œuvres sont l'attestation, la manifestation, le produit d'une foi réelle. Et l'on a pu comparer avec raison, on a pu comparer la foi et les œuvres à, ensemble, les deux ensemble, à un arbre. Un arbre, l'arbre du psaume premier, par exemple. Cet arbre, on voit la partie extérieure, la partie aérienne, le tronc, les branches, les feuilles, tout cela, on le voit, et cela correspond aux œuvres. Les œuvres, on les voit. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les racines qui sont sous la terre. Et pourtant, c'est grâce à ces racines que la partie extérieure de l'arbre peut être agréable, peut être productrice de fruits. C'est donc, vous voyez, les œuvres, c'est ce qui se voit. Mais si on avait coupé le tronc de l'arbre à ras de terre, qu'il ne reste que les racines et que même le tronc soit dissimulé par la terre, on pourrait dire à quelqu'un, voici, s'il y a un arbre. Et ce quelqu'un dirait, je ne vois pas d'arbre. Mais s'il y a un arbre, il y a toutes les racines. Il a été coupé, mais il y a les racines, toutes les racines sont là, il y a un arbre. C'est-à-dire, il y a la foi, Mais la foi ne peut rien produire, ne produit rien. Hein? Alors là, il est évident qu'on retomberait sur la démonstration de Jacques, qui nous dit que celui qui a la foi doit également avoir les œuvres de la foi. Alors, nous pourrions examiner assez rapidement comment il se fait que l'amour rende les œuvres ou le témoignage, œuvre, n'est-ce pas, œuvre chrétienne, attestant la foi, produite par la foi, les œuvres chrétiennes ou le témoignage chrétien. N'oublions pas que le témoignage chrétien est une œuvre très importante, une œuvre essentielle même, et l'Église ne peut pas se grandir sans lui. Alors comment, par quel mystère, par quelle voie, l'amour, cet amour de Dieu dont nous avons parlé, que nous avons différencié de l'amour naturel, de l'amour courant entre les hommes, eh bien, comment se fait-il que cet amour puisse rendre les œuvres vraiment efficaces? Eh bien, voici les raisons de cela. Première raison, dans l'amour, si vraiment un enfant de Dieu a en lui l'amour, nous avons dit qu'il ne se regarde plus, il ne cherche plus son propre intérêt, il regarde les autres. Ce sont les autres qui l'intéressent. Il est pour les autres. Lui, quant à lui, Dieu s'occupe de lui. Il n'a pas de souci à se faire. Dieu s'occupe de lui. Mais lui, il est là pour, de la part de Dieu, s'occuper des autres. Et ça, nous pouvons le dire à chacun des membres de l'Église. Il est là pour les autres. Il n'est pas là pour lui-même, seul. Il est là pour les autres. Alors, dans l'amour, quand quelqu'un a l'amour et accomplit des œuvres, ou rend témoignage, non pas toujours de sa propre expérience, mais rend témoignage comme témoin de Jésus. Il est témoin de Jésus, il parle. Eh bien, cet homme spirituel, que fait-il? Il s'offre lui-même. Il s'offre lui-même. Il fait l'offrande de lui-même. Comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12, il livre son corps, il donne son corps, c'est-à-dire toutes ses possibilités qui sont avant tout physiques, n'est-ce pas, mais mises au service de son cœur. Alors, il s'offre lui-même, et sans l'amour, si un chrétien veut témoigner ou produire des œuvres, mais n'a pas l'amour, alors, eh bien, l'homme, le chrétien qui fait cela, est absent de ce qu'il propose. Il va proposer l'Évangile, il va proposer la repentance, la foi en Jésus, peut-être avec assez d'habileté, de connaissance, il va citer les versets, mais il va proposer quelque chose parce que ça lui convient, il se sent lui à l'aise dans cette proposition, il propose quelque chose dans en quoi il n'est pas, en quoi il ne se met pas. Il est en somme comme un représentant de commerce. Il propose sa marchandise, et puis on prend ou on ne prend pas. Une fois qu'il a fait la proposition, rien ne l'intéresse plus. Vous voyez par conséquent qu'il faut l'amour pour que chaque chrétien rendant témoignage ou prétendant accomplir avec l'Église, dans l'Église ou même à côté de l'Église des œuvres, les œuvres de Dieu, les œuvres de la foi, il faut que ce chrétien ait en lui la puissance de l'amour. La deuxième raison que nous pouvons mettre en lumière est celle-ci. L'amour, nous l'avons montré, ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. Il ne naît pas dans l'homme, il vient de Dieu. Nous avons vu que Dieu a aimé le premier. Et c'est toujours ainsi. Dieu, lui, ne peut être que seul à prendre l'initiative de l'amour. Et par conséquent, Dieu aime. Et lorsque Romains 5,5, je le rappelle, nous dit que l'amour est versé dans nos cœurs, il s'agit de l'amour de Dieu pour nous, et non pas une possibilité d'amour de nous en direction de Dieu. Il s'agit de l'amour de Dieu pour nous, c'est cet amour-là. Je l'ai montré, j'ai montré aussi que le Seigneur Jésus-Christ met l'accent sur le fait que le Père l'a aimé, et qu'il a observé les commandements du Père, et qu'il a demeuré dans son amour. Mais il ne dit pas, moi, j'ai aimé le Père aussi. Il dit que le Père l'a aimé. Bien sûr, il aime le Père. Mais il suffit de dire que le Père l'a aimé, et qu'il a demeuré dans cet amour, par quel moyen essentiel ? En accomplissant la volonté du Père. Ainsi donc, l'amour ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu, et c'est l'amour que Dieu a pour nous qui est versé dans nos cœurs. Seulement, cet amour, immédiatement, a son retour. Immédiatement, il provoque un retour. Alors, plus nous avons la certitude profonde d'être aimés de Dieu, plus nous aimons et mieux nous aimerons Dieu. C'est de cette manière que nous aimerons Dieu, n'est-ce pas? Il faut bien appuyer là-dessus, parce que beaucoup de chrétiens ont prié longuement en demandant « Seigneur, remplis mon cœur d'amour afin que je t'aime, etc. » Remplis mon cœur de ton amour pour moi. Que j'en ai non seulement la certitude, mais que je le ressente, mais que j'en ai le goût, que je l'éprouve, cet amour que tu as pour moi. Et alors, aussitôt, n'est-ce pas, la contrepartie se manifeste, ne peut pas ne pas se manifester. Et si, alors, nous aimons Dieu, nous aimons le prochain. Cela aussi va ensemble. Vous savez que les deux commandements, nous l'avons étudié, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, ce sont deux commandements jumelés, deux commandements, c'est un commandement double. Ainsi, l'amour ne vient pas de l'homme. Donc, dans l'amour, si un chrétien aime et produit des œuvres, rend témoignage, eh bien, c'est Dieu qui agit par l'homme. C'est Dieu qui agit par lui. Tandis que sans l'amour, s'il n'avait pas l'amour, ce serait l'homme qui agirait, et non Dieu. Je voudrais vous rappeler un beau verset du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 26, et le verset 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » C'est-à-dire qu'il l'accomplit à notre place. Non pas à notre avantage, mais à notre place. C'est toi qui l'accomplis à notre place. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis. Et nous trouvons le rappel de cela dans un verset aussi de la première épître de Jean, au chapitre 4. Jean, première épître, chapitre 4, et verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc Dieu demeure en lui et c'est Dieu qui agit. C'est plus l'homme qui agit, l'homme est là en somme ouvrier avec Dieu, il est dans une symbiose avec l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui agit par lui. Donc, voyez la grande différence. Si l'homme, le chrétien, n'a pas d'amour, c'est lui qui agit. Nous savons ce que ça donne. Nous savons ce que ça donne, n'est-ce pas? Absolument rien. Ou plutôt, des effets contraires à ceux recherchés. Troisième raison. L'amour de Dieu ne peut pas faire autre chose que de suivre le droit chemin. Car lui, il ne peut qu'accomplir la volonté de Dieu. L'amour accomplit les commandements, les prescriptions, les enseignements de Dieu. 1 Jean chapitre 5 et verset 3 pour appuyer la chose. Donc, l'amour ne peut qu'accomplir la volonté de Dieu. Il suit toujours le droit chemin. Si par conséquent, je me suis vraiment laissé conduire par l'Esprit ayant en moi l'amour, alors je ne pourrai faire que de bonnes choses, je ne pourrai dire que de bonnes choses, et ce sera là, évidemment, un service de Dieu de haute qualité. Quatrième raison, l'amour n'est pas froid, bien que ce soit l'amour de Dieu, n'est-ce pas, et que à cet amour, il faut qu'une intelligence spirituelle participe. L'amour n'est pas seulement quelque chose d'affectif, il y a participation de l'intelligence et de la sagesse spirituelle, beaucoup de participation même, n'est-ce pas? Eh bien, alors cela, il faudrait le développer, évidemment, peut-être le ferons-nous dans une autre occasion. L'amour, lui, cependant, est ressenti, n'est pas froid. Il est ressenti par ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent sont attirés. Si ils voient que, d'abord, nous apportons un témoignage par notre vie, par le fait, un témoignage de fait, ils nous voient vivre. Il voit notre comportement, il voit nos réactions. Déjà là, ils sentent l'amour, un amour qu'ils ne connaissent pas, mais ils sentent cet amour. Puis, ils nous entendent parler, et à ce moment-là, l'amour se manifeste. Encore plus, l'amour est ressenti par ceux qui écoutent, quel que soit leur cœur. Quelle que soit leur opposition, peut-être. Nous avons vu cela dans bien des cas, et c'est quelque chose de merveilleux, merveilleux de voir des gens qui sont, qui paraissent irréductibles, ils sont campés là, dans une position d'opposition, de contradiction, et puis alors, on leur parle doucement, on leur parle selon l'amour, on leur parle alors selon la vérité. Et voici que en eux, il y a quelque chose qui se met à vibrer. Il y a réceptivité chez eux. Ils reçoivent, ils ressentent, ils sont attirés, ils sont même retenus, ils sont pénétrés par la parole de vie, ils sont bouleversés. Ils sont délogés de leur forteresse, comme dit Paul, délogés de leur résistance, par la puissance de l'amour. Mais si je n'ai pas l'amour, j'ai beau apporter une belle démonstration du salut, de la voie du salut, si je ne le fais pas selon l'amour, je ne produirai absolument rien. C'est l'amour qui va faire ce travail. Et c'est merveilleux quand on se trouve justement dans les circonstances où cela s'expérimente, ben vraiment on est confondu, on ne peut que se résoudre en louange à l'adresse de Dieu. C'est merveilleux. Cet amour est d'une puissance extraordinaire, mais il faut le mettre en jeu. Donc l'amour est ressenti. Je pourrais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, j'ai fait allusion à ce passage, mais relisons-le, chapitre 10, verset 3. Et si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amener toute pensée captive, toute pensée qui était pourtant liée à toutes sortes de raisonnements, eh bien l'amener vraiment là, c'est quelque chose de merveilleux, et ça c'est le miracle de l'amour. Cinquième considération pour montrer l'efficacité de l'amour. L'amour est seul capable d'aller dans toutes les plaies de la misère humaine. Nous aurions beau avoir une certaine compassion, avoir une intention de haute moralité, cela ne ferait rien. Nous pourrions avoir de bons, des mots assez heureux pour essayer de consoler, d'encourager, mais cela ne ferait rien. Il y a dans l'Écriture une consolation qui vient de Dieu, et cette consolation est l'œuvre d'amour, de l'amour. L'amour va dans toutes les plaies de la misère humaine. Alors, nous savons que lui, il ne juge pas. Il ne juge pas. Il peut être en présence de toutes les situations les plus douloureuses et puis aussi les plus irréductibles, a priori. Il ne juge pas. L'amour ne juge pas. Il ne juge pas et il sanctifie, au contraire, tout ce qu'il pénètre. Il sanctifie. Il apporte une action sanctifiante. Il sanctifie ce qu'il pénètre. Il est appelé à se rencontrer avec le péché. Nous allons, le Seigneur Jésus, voyez-le, les femmes de mauvaise vie, tous ces péagers qu'il rencontrait, on le lui reprochait assez d'être dans la compagnie des femmes de mauvaise vie et des gens considérés comme les plus bas de la société. C'était pas vrai toujours, bien sûr. Mais enfin, le Seigneur, lui, ne regardait pas à cela. Pierre a pu s'effondrer à ses pieds et lui dire, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Bon, ça n'a pas du tout modifié ce que le Seigneur Jésus était en train de faire à ce moment-là. Il a relevé Pierre et lui a dit qu'il serait un pécheur d'homme. Donc, l'amour se rencontre avec le péché. Il est fait pour se rencontrer avec le péché. N'ayons pas la conception d'un amour délicat qui dit « Oh !» Là, c'est horreur, je m'en vais. Non, il est fait pour se rencontrer avec la misère humaine, avec le péché, avec tout ce qu'il peut y avoir de pire, peut-être. Il est fait pour cela. Dieu le donne pour cela. Dieu veut qu'il soit utilisé pour cela. Il se rencontre avec le péché, et même, il est capable de le faire abonder. parce que dans l'amour il y a la grâce de Dieu, il fait abonder le péché. C'est-à-dire que il va le faire s'exprimer. Le péché va se dévoiler. Tout naturellement, des gens seront portés à se confesser. C'est pas que l'on ait, n'est-ce pas, la mission de confesser les gens. Ben, ne croyez pas ça. Mais spontanément, les gens ont besoin de dire. Ils ont besoin. Alors, cela, il faut le laisser faire, bien sûr. C'est pas devant le témoin, le chrétien, qu'il se confesse. C'est devant Dieu. Alors, il fait abonder le péché. Il le fait paraître à la lumière. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il faut que le péché paraisse à la lumière. Il faut pas qu'il reste caché. Il faut qu'il paraisse à la lumière. Et ça, l'amour est capable, lui seul capable de faire cela. Et alors, l'amour va lui témoigner toute la miséricorde de Dieu, d'un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Il va lui témoigner la miséricorde. Et chers amis, quand cette œuvre-là est faite par l'amour, vous savez quels sont les hommes, les femmes, qui peuvent rester vraiment campés sur leur résistance. Non, en général, les larmes coulent. En général, le cœur est touché. Le cœur est touché. Et alors, l'accès à la grâce de Dieu est ouvert. La grâce de Dieu vient. La repentance a fait son œuvre. La grâce de Dieu vient et le salut est donné. Il suffit de montrer Jésus-Christ. Pas par de grands discours, mais il suffit d'aborder Jésus-Christ. Et enfin, autre raison, nous disons que pour sauver les âmes, il faut les amener à Christ. Les amener à Christ. Ce n'est pas par de la doctrine que l'on sauve, et pas la doctrine qui nous sauve. Elle a son utilité en son temps, mais ce n'est pas elle. Beaucoup de sectes chrétiennes commettent cette lamentable erreur de vouloir aborder les gens du monde avec de la doctrine. On leur parle de tout ce qui a pu se faire dans le domaine de la création, etc. Tout cela est très intéressant, bien sûr, mais c'est pas ça qui peut conduire à Christ. Au contraire, ça peut éloigner, parce que ça peut encourager bien des gens à se réfugier. Vous savez, le diable est malin et la chair a la malice du diable. Et ça peut permettre à certains de se réfugier dans le domaine des idées. Et quand vous avez quelqu'un qui est allé se cacher, là, dans le domaine des idées, et qui vous répond, qui dit « Ah oui, c'est très intéressant, moi je sais que, j'ai lu que, etc. » Il a une certaine érudition, et alors il va vous la ressortir. Alors cette âme-là, sur le moment, vous l'avez manquée. Elle est absolument manquée. Il faut amener les âmes à Christ. C'est Christ qui sauve. C'est le contact avec Christ qui sauve. C'est la rencontre avec Christ qui nous sauve. Alors, pour les amener à Christ, c'est-à-dire les faire entrer dans un lien avec Christ par le moyen de la foi, eh bien, il faut leur révéler l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen que de leur révéler l'amour de Dieu. Et en conclusion, nous dirons ceci, c'est que la vie chrétienne se développe dans le rayonnement de l'amour, et non autrement. Si ce rayonnement n'est pas là, il n'y a pas de lumière. Et s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie possible. Il faut que la vie chrétienne se développe dans le rayonnement de l'amour jusqu'à réaliser la vie de Christ, jusqu'à réaliser le contact avec le Christ. Voilà donc le rôle essentiel, majeur, merveilleux de l'amour. En somme, Dieu est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, penser. Dieu est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Notre adoration va vers Dieu. Bon, mais cela dit, nous pouvons aussi affirmer qu'il n'y a rien de supérieur à la vie et à l'amour. Ensemble, non pas séparément, mais ensemble. Eh bien, chers amis, j'avais évidemment encore bien des choses à vous dire, mais je vais quand même arrêter là pour ne pas vous fatiguer ce matin. Je pense que nous pourrons poursuivre en nous intéressant à la suite de ce chapitre 13 de 1 Corinthiens et notamment à une invitation majeure dans la parole de Dieu, qui est celle-ci: heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Et que va-t-il leur arriver à ceux qui procurent la paix? Eh bien, je vais vous le dire. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Par conséquent, comment va-t-on vraiment attester dans notre marche chrétienne, comment va-t-on attester que nous sommes fils de Dieu de cette manière? Procurer la paix. Et ça, c'est un grand chapitre, un merveilleux chapitre. Il faudra que nous en disions quelque chose. Que le Seigneur nous le permette. Amen.